Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Si on entendait la leçon du feu, peut-être qu'on saisirait mieux le rôle des jeunes filles en feu, l'importance de leur passion, la richesse de leur colère, la nécessité de leurs amours. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, je suis ravie de recevoir Martine Delvaux. À l'occasion de son passage en France pour la parution de ses deux sublimes ouvrages, Pompière et Pyromane et Le Monde est à toi, aux éditions Les Avrils. Accrochez-vous, c'est parti. Nous avons le grand plaisir de recevoir Martine Delvaux qui vient quand même du Québec, exprès pour l'Affranchi évidemment. Non, on aimerait le croire, mais en vrai, il vaut mieux qu'on soit plusieurs à vous recevoir pour entendre votre parole et faire lire vos livres. Mais on est toujours ravis, l'Affranchi, d'être sur votre route, à toutes les grandes penseuses. Si on vous reçoit, c'est parce que vous venez aujourd'hui même de publier en France deux livres très intéressants qui sont « Le monde est à toi » et « Pompière et pyromane » aux éditions Les Avrils. Ce sont deux ouvrages qui sont déjà parus au Québec, qui nous paraissent le même jour en France, mais ça fait sens, c'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Et aujourd'hui également, paré Serial Girls chez Payot et Rivage.
Je n'ai même pas encore vu, moi.
Ah, le voilà. Tadam.
Voilà.
Donc, qui est la même maison d'édition que la version en poche du Boys Club. Ouais. Mais ces deux livres étaient précédemment aussi publiés par Remue Ménage.
Oui.
Voilà. Donc, ça, c'est l'historique éditorial.
On va comment on traverse l'océan.
Voilà, c'est ça. Comment on vous reçoit ici, pourquoi on a ces livres entre nos mains et de ce dont on va parler. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre lecture, enfin en tout cas dans la lecture de vos livres, et pas votre lecture, même si on pourrait quand même penser que c'est très lié, puisque grâce à Le Monde est à toi et Pompière et Pyromane, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Donc c'est une écriture hyper intéressante, j'ai trouvé, par rapport aux essais féministes habituels. Et j'ai entendu que vous appeliez ça de l'essai fiction.
Ah, peut-être que ce sont mes éditrices québécoises qui ont appelé ça de l'essai fiction, mais oui. Je peux accepter cette appellation. En même temps, c'est de l'essai à proprement parler, un peu même à la Barthe. Hein, c'est de l'essai qui présente une réflexion philosophique tout autant qu'une lecture de l'intime, qui est, à la fois représente un repli sur soi ou un repli sur l'espace interne tout autant qu'un regard vers l'extérieur. Donc, essai fiction peut-être, mais rien n'est faux. Hein, en fait, tout est vrai.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a plus l'habitude en fait, des essais assez formels. Peut-être, ou impersonnel, ou plus universitaire, où il y a quelque chose qui nous demande de la réflexion, de la recherche, enfin voilà.
Qui se veut objectif et neutre.
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que en vous lisant, on n'est pas du tout dans cette expérience-là de lecture. On est dans quelque chose de très intime, de très personnel, puisque vous mélangez votre vie, votre relation avec votre fille, avec votre entourage, à vos pensées féministes. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je lis ça, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le dernier livre que j'ai lu, c'est Les filles corsaires de Camille Toffoli, qui est québécoise également, et une autre consoeur.
Elle était mon étudiante, d'ailleurs.
C'est vrai? Oui. Ah, et ben voilà, tout fait sens. Et ça m'avait vraiment interpellée, en fait, cette façon dont on écrit les grandes pensées féministes, mais en allant jusqu'au bout de l'intime, c'est-à-dire en vraiment en prenant en exemple sa vie, son quotidien, le réel, en fait, de ce que c'est être une femme féministe, comment on vit en femme féministe.
Oui, tout à fait. Mais ce qui nous ramène quand même aux années 70, c'est au cercle de conscience, de prise de conscience, comment les femmes se sont mises ensemble pour parler de leur vie, pour essayer de comprendre comment ça se passait, et à partir de là, se mobiliser en tant que féministe. Donc c'est un peu revenir donner tout son sens à l'expression « le personnel est politique ». Le personnel est véritablement politique. Et la pensée politique peut naître d'une lecture ou d'une analyse de l'intime du personnel. Mais je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre l'essai-fiction, si on veut, bon, ce que moi j'appellerais juste de l'essai, et des ouvrages qui sont considérés plus neutres, plus objectifs, à la troisième personne, mais ils sont pas plus neutres et plus objectifs que mes livres. La différence, c'est que moi, je mets sur la page mon point de vue situé. Je me situe et de là, j'écris. L'intime est juste une manière d'ancrer le point de vue situé. C'est une manière de mettre la table et de dire, ben voici, moi, je ne ferai pas semblant que ce n'est pas moi qui écris. Alors voilà, contrairement à d'autres qui font semblant que ce ne sont pas eux qui écrivent quand ils décrivent le monde et disent qu'il n'y a pas de patriarcat dans ce monde, par exemple, ben moi, au contraire, je dis non, moi, je vais écrire depuis cette perspective qui est la mienne, celle d'une femme blanche de classe moyenne, professeure d'université, écrivaine, mère d'une fille blanche, bon, etc. Et c'est très important pour moi de défaire ce mythe et de, enfin, je me bats un peu contre ça. J'en ai un peu marre qu'on fasse passer la grande, les grands intellectuels sont ceux qui peuvent réfléchir sans prendre position dans leurs écrits, sans s'avouer comme partie prenante de leurs écrits. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant que Jablonka, dans Des hommes justes, ben, il arrive, en fait, au rendez-vous dans la conclusion. Ou tout à fait, à la conclusion, il dit, ben, moi, je suis père de fille. Et je disais, ah! Enfin, bonjour, vous êtes arrivé. Alors que moi, c'est le contraire, je commence et après, je vois comment la pensée peut se déplier.
Oui, c'est d'autant plus important qu'on est dans une époque où on parle beaucoup des représentations, de qui parle, qui est lu, qui exact. Est montré, et de se dire qu'en fait, il est important de se situer pour montrer d'où vient la parole et comme ça, de montrer aussi de la parole qui manque. Puisque oui. En tant que femme blanche... alors, en tant que femme, on est moins édité. En tant que femme blanche, on est plus édité que oui. des femmes racisées. Ouais. Et en fait, tout ce discours autour de l'intersectionnalité, en fait, ouais. par les représentations, c'est hyper important, en fait, aujourd'hui, pour les féminismes, en fait, de dépasser... cet endroit de où en fait on a l'impression que voilà le féminisme est blanc parce oui. qu'on s'est quand même martelé et ben, voilà c'est quelque ouais. chose qui est assez le boys club s'amuse dehors super essayons de ne pas perdre le fil
oui, mais le féminisme est blanc
voilà le féminisme est blanc et c'est important pour les féministes blanches en fait de se positionner absolument. Pour montrer aussi que ouais. y a d'autres voix qui sont nécessaires pour être complémentaires
ouais.
et non, après absolument. Dans ce principe du lettre c'est le sous-titre de Le Monde est à toi c'est lettre de mère en fille ouais. il y a une chouette habitude de plusieurs féministes de faire ce principe-là, en fait, d'écrire des lettres à des jeunes filles, à leurs filles, à leurs mères. À... Ouais. Et c'est beau, en fait, cet endroit-là aussi de transmission qui montre hyper bien ce que vous disiez de l'intime et du politique, en fait.
Oui, mais quand j'ai écrit Le Monde est à toi, en fait, j'ai procédé un peu à l'envers. C'est-à-dire que la relation mère-fille, elle a été investie, on pourrait même dire ad nauseam, hein, par les féministes, en particulier par les études littéraires et puis mon cinématographique et tout. Et j'avais envie de me dégager de ça. Moi, j'avais pas envie de rendre hommage à la maternité. J'avais pas envie d'écrire à partir de là. Je voulais penser ce qu'il y avait de féministe et ce qu'il y avait de révolutionnaire ou de radical même dans l'amour absolu. Qu'est cet amour-là? Mais il y a d'autres amours qui sont absolus. Il y a pas que celui-là, mais c'est celui-là qui, moi, à ce moment-là, m'intéressait. Mais pour m'aider ou m'accompagner dans cette anti-réflexion sur la maternité, je me suis entourée d'écrits, d'écrivaines, donc d'autrices qui pensaient la maternité à rebrousse-poil. Enfin, Linda Lee, elle écrit une lettre à l'enfant qu'elle n'aura pas. Rihanna Fallaci écrit « Lettre à un enfant jamais né ». Donc, à la fin, c'est une histoire d'avortement. Donc, j'ai vraiment... Maya Angelou écrit une lettre à sa fille, mais elle n'a pas eu de fille. En fait, elle a eu un garçon. Donc, j'ai vraiment lu ces autrices-là qui m'intéressaient parce que je voulais qu'elles viennent m'aider à ne pas penser à la maternité comme on la pense d'habitude. J'avais pas envie d'une maternité rose bonbon. J'avais pas envie d'une maternité qui est pour moi... Bon, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a une redomestication des femmes en ce moment avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'espèce de... ces mises en photo de l'espace intime avec bébé, puis bon, le papier peint, puis bon, moi, ça me... D'accord, mais il y a un risque. Je suis pas... Faites ce que vous voulez, mais il y a un risque. Ça nous ramène quand même dans une redomestication des femmes. Et moi, je pense qu'il faut s'interroger. Elle est où notre place? Est-ce que c'est vraiment la chambre à soi ou est-ce que c'est la rue à soi? Moi, j'ai envie qu'on ait la rue aussi. J'ai pas envie d'être juste dans ma chambre. Donc, Virginia Woolf avait raison, mais il y a d'autres lieux que la chambre. J'ai un peu écrit dans cette perspective-là. Je voulais m'empêcher, moi, de tomber dans ce travers. Donc, il y avait ça. Et puis, bien sûr, s'il y a un mot d'ordre dans Le Monde est à toi, c'est... si je parle à Ellie et je lui dis « ne deviens pas blanche ». S'il y a un féminisme en ce moment qui pour moi est problématique, c'est ce féminisme blanc qui ne se voit pas blanc, qui ne se rend pas compte qu'il est blanc. Et c'est les féministes les plus violentes à mon endroit, ce sont des féministes blanches. Et la vraie lutte que je mène, enfin, j'ai énormément de haters, de trolls, d'hommes qui m'écrivent, me menacent et tout, mais les féministes blanches sont celles qui m'attaquent vraiment, et celles que je dois bloquer sur les réseaux parce qu'elles m'attaquent et elles s'en prennent à, bon, à ma vie, à ma fille. Et s'il y a une chose que j'espère avoir transmise à Ellie, c'est ça. Donc, c'est sois consciente d'où tu es, où tu te trouves, à quoi tu ressembles, et de là, quel est ton rôle politique, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux donner, et en même temps, écoute. Ne dis rien, écoute. Donc, que nous, on ait bien entendu la leçon que nous, on donne, enfin, ce que nous, on demande aux hommes, pour caricaturer un peu comme ça, laissez-nous parler, ne prenez pas toute la place, taisez-vous, écoutez. Et bon, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire, mais on leur demande. Mais c'est la même chose qui nous est demandée en tant que féministe blanche. Et ça, je crois que c'est la leçon la plus importante que qu'Ellie a pu, j'espère, rattraper.
Mmh. Mais c'est là où là, je trouve que la lecture de Le Monde est à toi est primordiale. C'est que il y a vraiment cet endroit de grande honnêteté de dire non, mais je ne l'ai pas, ma fille, je n'ai pas voulu l'élever en féministe. J'ai voulu l'élever comme un individu, une personne, et qu'à travers ça, eh ben, on va lui transmettre des valeurs, un respect d'autrui, qui est de prendre conscience de qui elle est, comme vous venez de le dire dans la société.
Même, j'ai pas voulu l'élever.
Ouais.
J'ai juste voulu l'aimer. Et pour moi, c'est un peu, c'est pas bateau là, c'est pas vide. Comme, j'ai pas envie d'élever quelqu'un. Je pense pas que je suis plus, que je suis hiérarchiquement supérieure à elle. Je n'ai pas à la tirer vers moi. C'est vraiment pas comme ça que ça se présente. C'est que je l'ai aimée. Et dans cet amour, j'espère lui avoir transmis de l'énergie, lui avoir permis d'avoir ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Mais c'est elle qui m'a aussi tirée vers elle. Donc c'est vraiment une horizontalité et non pas une verticalité.
Mais c'est vrai que le terme élevé, en fait, c'est.
Ben, on le dit tout le temps, hein.
Oui, c'est ça. Et en plus, c'est une partie du livre. Donc, c'est juste en vous l'entendant dire, je me dis, ah, bah oui, complètement. Je suis bien d'accord. mais d'où l'importance.
C'est mon rôle, là, de...
Mais oui, c'est ça, de venir remettre les bons mots au bon endroit.
Ben, de trouver des choses à dire.
Bon, ça, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Mais c'est là où, en fait, je trouve qu'il est hyper important de parler de la langue, du langage, en fait, de dire les mots justes et de se rendre compte qu'en fait, les mots qu'on utilise ont un bagage. Et là, bah, voilà, encore une fois, on a tendance à prendre pour acquis certaines expressions et donc élever un enfant. Bah, en fait, quand on y réfléchit comme vous venez de le faire, ça montre encore voilà, la domination des adultes sur le monde des enfants.
Enfin,
et même les enfants, pas leur monde, mais carrément les enfants. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est à remettre en question. Et c'est vraiment... ce que j'ai apprécié avec ce livre qui, d'abord, quand on me l'a présenté, m'a pas été tout de suite évident. C'est-à-dire que moi, les histoires de maternité, et je les dis vraiment comme ça, ne m'attirent pas du tout.
Même si
elles couvrent absolument toutes les tables en ce moment. Donc Et tout de suite, j'étais attirée par le deuxième livre, dont on parlera après, qui faisait beaucoup plus écho, en fait, directement à mon expérience personnelle. Et pour autant, on m'a dit, mais non, tu vas voir, lis-le. Et en fait, en le lisant, j'étais très émue. Parce que au final, c'est un livre que j'ai juste envie d'offrir à ma mère, moi-même, fait.
Ouais.
C'est tout simplement. Ouais. Pas dans un rapport maternant ou quelque chose qui me mettrait mal à l'aise, mais plutôt dans un côté... en fait, en m'aimant, tu m'as fait exister comme je suis maintenant aussi, en me laissant toutes les places, etc. Enfin, c'est un beau message.
C'est
un ping-pong qui est hyper intéressant, je pense, parce qu'à partir d'un moment, ben, on est toujours, en fait, les enfants de quelqu'un ou quelqu'une, mais notre rapport, en fait, les uns les unes aux autres évolue énormément, et d'autant plus quand on devient des adultes, en fait. Et là, ce qu'on y lit, en fait, c'est autant, une énorme déclaration d'amour pour votre fille, et ça, c'est hyper touchant à lire, parce que ben, lire l'amour, c'est quand même... quelque chose qui est plutôt intéressant, on va dire, enthousiasmant.
Mais qu'elle n'a pas lu. Hein.
Qu'elle n'a pas lu encore ?
Non.
D'accord.
Ouais. Et non, voyez, c'est ça. Tout est un peu déconstruit. C'est-à-dire, si personne ne le sait, ben, je le dis maintenant parce que bon, ça me fait rire de le dire, mais non, elle ne l'a pas lu. Et quand je lui en parle, elle me dit, mais je suis incapable de le lire parce que je sais que je vais pleurer.
Mais oui, c'est quelque chose de très fort que vous lui... proposer, en fait, c'est de lire tout votre amour. J'ose imaginer qu'il y a des questions juste de cœur et de comment on va le supporter et de prendre autant d'amour d'un coup.
Je pense qu'il y a quelque chose de féministe là-dedans aussi, dans le fait que je ne l'oblige pas. On ne peut pas, de toute façon, obliger quelqu'un à lire un livre, mais je n'insiste pas, je dis pas, mais voyons, faut que tu lises le livre, je l'ai écrit pour toi, blablabla, blablabla. Bon. Donc, je fais pas ça. Mm-hmm. Et elle sent pas non plus l'obligation de le lire parce qu'elle me devrait cette lecture.
Mm-hmm.
Et quand je dis que notre relation, elle est faite, pour citer Françoise Colin, d'espace fait d'espacement, ben c'est ça. C'est comment les deux corps qui commencent ensemble, mais bon, mère-fille, mais ça peut être des amantes, ça peut être un couple père-fils, peu importe, hein. Mais que des corps qui sont collés peuvent rester collés tout en s'espaçant, puis revenir, puis bouger comme ça. Mm. Et c'est ça que je voulais essayer de traduire en parole, de montrer que c'est pas vrai que la symbiose mère-fille, pour renvoyer à notre fidèle Freud, est problématique. Elle est pas toxique, elle est pas elle cause pas des psychoses, et on n'a pas besoin d'un mec pour venir nous faire rentrer dans le symbolique. C'est bon, on gère, on est capable. On y arrive comme des grandes. J'en ai vraiment assez d'entendre ça, de faire porter aux mères l'odieux. En fait, tout ce qui ne marche pas, c'est bon, ça appartient aux mères. Et comme s'il fallait qu'il y ait du masculin dans l'équation pour que quelque chose fonctionne correctement. J'en ai marre qu'on voit la transmission du savoir comme de père en fils ou de maître en élève depuis les Grecs, mais entre garçons. Que ce soit dans, enfin, peu importe, dans une salle de classe, un sauna, un terrain de golf. Bon, ça, c'est le boys club, hein, mais j'en ai assez de cette figure-là. Je veux qu'on imagine autre chose. Je veux qu'on voit comment la transmission opère entre personnes de genre différents. D'ailleurs, pas seulement entre mère-fille ou entre femmes, mais entre personnes non-binaires. Et que la pensée se construit là aussi. Ce n'est pas l'apanage du masculin.
Tout à fait. Et d'autant que, et là, on va faire une avancée vers Serial Girls, la fabrique en série du corps féminin des Barbie aux Pussy Riot et Beyoncé. En fait, en lisant ce livre, je pense que j'ai jamais autant compris que, alors ça va paraître fou, mais qu'on était à ce point construite par l'œil du patriarcat, l'œil capitaliste et donc l'œil masculin. Et donc, par rapport à ça, en fait, de se dire que, en tant que femme, chaque étape de notre vie a déjà été prépensée. C'est-à-dire qu'on est censé être une petite fille comme ça, on est censé être une collégienne comme ça, une lycéenne comme ci, une jeune adulte comme ça, une mère comme ça, une vieille femme comme ça. En fait, on pourrait décrire le stéréotype, même le prototype,
ouais,
pour être dans le Serial Girls,
ouais,
d'une femme du début à la fin, sans que ça gêne personne, en fait. Sauf, évidemment,
ah ouais,
les féministes,
c'est...
mais...
Ben oui, c'est ça, mais nous, on est chiants. Tant que c'est... Mais oui, oui, ça va de soi.
Il y a quelque chose comme ça d'hyper construit. Et il y a une phrase super chouette dans Le Monde des Tatouages qui dit « Je crois qu'on n'a pas inventé les adolescentes.
Mm-hmm. »
Et ouais, ça a vraiment, en fait, à la lecture, j'ai eu vraiment l'impression d'une bombe dans mon cerveau de me dire « Mais c'est ça, en fait, on présuppose un comportement aux adolescentes. »
Mmh.
Et donc, qui font que leurs identités sont complètement pas libres, en fait, d'être qui elles veulent.
Mmh.
Et je pense que dans ce livre, le portrait que vous faites de votre fille, c'est qu'elle, elle a eu cet endroit de pouvoir se construire en tant qu'elle-même, en fait, à chaque étape de sa vie, sans être accrochée, en fait, à, une, à des valeurs préconstruites.
En tout cas, c'est l'effort qui a été le mien. Après, je pense qu'on n'y échappe pas entièrement, puis que je suis pas loin d'être une mère parfaite, et elle a pas eu... Non, je voulais pas non plus tomber dans ce travers-là qui serait qu'on a eu, nous, cette vie idéale, et puis bon, tout a été extraordinaire, c'est pas vrai, là. Mais c'est vrai que j'étais consciente tout le long, j'essayais, je voulais l'aider à échapper à un certain formatage. Mais le formatage n'est pas... a pas à voir avec... pour être dans les clichés, puis j'en parle dans Le Monde des Tatouages et peut-être même dans Les Filles en série, c'est pas la petite fille de 4-5 ans qui tout d'un coup veut porter des diadèmes et des robes roses tous les jours de sa vie. C'est pas ça le problème. Go! On va porter les robes roses et les diadèmes, puis on va jubiler de ça. On va y aller, mais on va y aller à fond. Ben, 2 mois plus tard, c'est terminé. C'est ça, le formatage est beaucoup plus grave que ça. Il est beaucoup plus mortifère, beaucoup plus violent. Et quand je dis qu'on n'a pas inventé les adolescentes, en fait, bon, depuis que je suis ici, on m'interroge beaucoup, on fait parler sur le temps des femmes, parce que je pose la question dans Le Monde des Tatouages, et c'est un problème, c'est quelque chose qui m'habite. Quel est le temps des femmes? Dans quel temps est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on a même accès au temps? Est-ce qu'on est dans la temporalité du monde, mais donc de ce monde masculin, disons? Quand on est... Est-ce que les petites filles ne sont pas d'emblée des proto-femmes? On les... Bon, au Québec, on en parle énormément, peut-être moins maintenant, mais on en a beaucoup parlé, de l'hypersexualisation des petites filles, bon, comme un grand drame. Bon, encore là, je pense qu'il faut se calmer. Mais si on reconnaît cette hypersexualisation, c'est qu'on n'accorde pas aux petites filles cet âge qui est celui des petites filles. Après l'adolescence, c'est déjà les femmes. Donc, elles ont 12 ans, elles vendent du parfum pour Chanel. Elles ont 13 ans, elles sont déjà... On ne sait plus quel âge elles ont, en fait. Très rapidement, on est devant un visage dont on ne peut pas dire qu'il est celui d'une adolescente ou d'une jeune adulte ou même d'une femme mûre qui est déjà dans la trentaine. Et après, dès qu'on passe de l'autre côté, dès qu'on n'est plus une jeune femme, donc là, on tombe dans la catégorie des femmes âgées. Mais âgées, c'est quoi? C'est 40 ans? C'est 45? C'est 50? Enfin, on ne sait plus. Et là, on n'est déjà plus comme dans la catégorie des femmes. Donc, je ne sais pas quelle est notre temporalité. Je trouve ça très curieux. Et quand je pense aux femmes, par exemple, bon, de mon âge, les femmes entre 45 et 55 ans, ou même, je dirais, entre 50 et 60 ans, on est peut-être les femmes qui sont dans le top de leur productivité. On est au sommet de ce qu'on est capable de faire. On est dans une vélocité. On peut abattre des montagnes de travail. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on commence à nous déconsidérer. Et donc, je me dis, ça, si je veux être un peu parano, c'est voulu. C'est-à-dire, je me souviens d'avoir parlé à un éditeur d'une revue à Montréal qui disait « Oh, mais on cherche des femmes. » Et j'étais devant lui. Il disait « Vous cherchez quelle femme? » Et je voyais bien dans ce qu'il me disait, c'était des jeunes, jeunes femmes ou alors des femmes qui avaient 70 ans, 80 ans, ce que je trouvais très bien. Mais je me disais « Mais qu'est-ce que c'est? Où sont les autres? Qu'est-ce que vous faites de cette catégorie de femmes qui, en fait, sont vos pères? Il avait mon âge. » Donc, il y a vraiment une facilité à effacer certaines femmes qui sont probablement celles qui peuvent faire bouger les choses parce que, bon, ben, on a de l'expérience et puis il y a un certain nombre, la maternité est terminée, les enfants sont plus grands, bon, tout ça, on a plus de temps, justement. Mm-hmm. Hein, on a plus de temps. Si je veux être parano, j'ai vraiment l'impression que Christine Delphi, à l'époque, avait raison. On nous encombre, on nous fait porter des talons hauts, des jupes serrées, on nous donne un cabas, on nous donne une poussette. On peut plus bouger, on peut pas se sauver, on peut pas fuir, on est prisonnière. Mais on est aussi prisonnière à cause du temps, on a juste pas le temps. Donc, comment j'écris mes petits bouts de texte? Ben entre deux repas, et puis une brassée de lavage, et puis mon cours à préparer, et puis... Et c'est ça, le temps des femmes, en fait. C'est cet hyper-temps, ce temps. Et donc, quand on nous dit, vous vous prenez pour des victimes, les féministes, vous vous plaignez tout le temps. Non, mais en fait, on est des superwomen, puis pour vrai, là.
Et c'est dans Serial Girls, donc les filles en série, dans la traduction... Enfin, non, mais pas dans la traduction. Non, mais c'est compliqué, ce titre. Voilà, c'est ça.
En France, c'est Serial Girl.
Puisque la peur était que de garder les filles en série en français fasse penser aux séries télévisées
ouais.
Et non pas au principe comme ça du prototype, en effet.
Ouais. Mais c'était mon titre de travail.
D'accord.
Au départ, c'était Serial Girls, mais au Québec, évidemment, on a dit les filles en série. Mais c'était Serial Girls parce que je jouais avec l'idée du serial killer.
Mm-hmm.
C'était serial girls contre serial killer. Donc, c'est pour ça que c'est en anglais dans ma tête.
Et donc, dans ce livre, vous revenez sur ce principe que les femmes sont construites, en fait, un peu toutes sur les mêmes gabarits, sur les mêmes principes, mm-hmm. Qu'on doit toutes, en fait, respecter un certain code d'être, d'apparence, de personnalité, même, enfin, de tout. En fait, qu'on serait un peu des copies conformes les unes des autres. Ce qui, évidemment, fait un écho incroyable à ce qu'on peut vivre et à la façon dont nos corps sont censés être tous les mêmes. On doit tous avoir la même taille, tous avoir les mêmes couleurs de cheveux, etc. Enfin, bon, bref. Et pour autant, en fait, il n'y a pas que ça dans ce livre. C'est que vous allez, à partir de ce principe-là de la série, enfin, du prototype, on va rester sur le prototype, vous allez y trouver, en fait, des points forts et des choses que les femmes peuvent en fait se reprendre pour elles, et notamment ce principe, on est peut-être, vous nous considérez comme toutes les mêmes, mais en fait vous avez créé une sorte d'armée en fait qui va être votre pire ennemi en fait. Voilà,
c'est ça, exactement. En fait, ce qui m'intéressait dans les filles en série, c'était la fonction ornementale du féminin, des femmes, de femmes réelles, c'est-à-dire comment on nous formate, mais parce qu'on veut, on nous réduit à une apparence. Ce qui m'intéressait, puis c'était absolument instinctif au départ, hein, c'est j'étais fascinée, obsédée, c'est toujours comme ça que je travaille, que ce soit le feu pour pompières et pyromanes ou que ce soit les filles en série. Toutes ces femmes, pareilles, donc des corps semblables, les unes à côté des autres ou les unes en face des autres sur un catwalk pendant Fashion Week ou qu'elles soient au Moulin Rouge, bon, et qui bougent de manière synchrone. C'est ça qui m'intéressait. Et elles ne se regardent pas. En fait, elles ne sont pas amies. C'est ça qui me troublait. Donc, cette figure, je l'ai débusquée, je l'ai trouvée partout, je l'ai creusée, je l'ai analysée, pour ensuite l'inverser et montrer, vous voyez, cette même figure, elle a été aussi utilisée par les Pussy Riot pour dénoncer Poutine. Bon. Elle a été utilisée par les fémines, même si je suis pas d'accord avec toutes leurs positions, mais elle a quand même été utilisée pour dénoncer nombre de choses où tout d'un coup, les filles sur les affiches de lingerie fine, ben, étaient dans la rue et leur corps était maquillé. Bon, il y avait vraiment il y a un geste, une performance théâtrale là-dedans qui vaut la peine d'être analysée. C'est ça qui m'intéressait. Le Boys Club, par opposition aux filles en série comme ça ou comme ça, ben, ils sont en rond. Ils sont en rond autour d'un ballon, autour d'une table de conférence, autour d'un feu. Mais ils sont en rond et ils se regardent et ils se parlent et ils s'échangent quelque chose. Ils s'échangent un projet de loi, ils s'échangent du fric, ils s'échangent un corps de femme. C'est ça, ce sont les deux figures qui m'habitaient. Et j'ai procédé de la même façon. J'ai débusqué les différents boys clubs pour essayer de voir ben, comment ça fonctionne, ce truc. Et après, il y aurait des anti-boys clubs. Il y a des boys clubs qui ne sont pas des reproductions du patriarcat ou de la domination masculine, ce qui est peut-être l'expression que je préfère. Des boys clubs qui sont queer, des boys clubs qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas riches. Et il faut aller voir bon, toutes ces autres manifestations qui sont des contre-pouvoirs, puisque comme Foucault nous l'a bien appris, il n'y a pas que du pouvoir, il y a toujours aussi du contre-pouvoir. Mm-hmm.
Pour revenir en fait, à Serial Girls, cet endroit en fait, de pouvoir que les femmes ont par en fait, cette mise en série, cette mise en prototype, je l'ai trouvé hyper intéressant dans la mesure où en fait, vous revenez, mais vous l'avez dit il y a quelques secondes, sur le principe aussi de l'amitié, d'être là les unes pour les autres, de la sororité aussi, on peut aller jusque-là, et de faire de cet alignement une force, en fait, une puissance, quelque chose qui nous amène en fait, à toutes nous comprendre les unes les autres, puisque l'on vit... Alors, je vais dire la même chose en mettant évidemment des guillemets, puisque non, on ne vit pas en vrai toute la même chose. Mais pour autant, on essaye de nous faire croire qu'on vit toute la même chose. Et cette notion de l'amitié et en fait de l'attention les unes aux autres, je trouvais était vraiment super intéressant, en fait, comme une idée très concrète de comment, en fait, on peut faire bouger les lignes et sortir de ces stéréotypes prototypés.
Oui, c'est vraiment sortir de ce qu'on nous a appris, en fait, de ce qu'on nous met dans le biberon, hein, que les femmes sont des ennemies naturelles. Donc la jalousie, l'envie, c'est vraiment ce qui nous est donné d'emblée. C'est le principe de la Schtroumpfette, il y en aura une élue, les autres ne seront pas élues. Donc, on ne peut qu'être des rivales. Comment faire? Sinon, on n'existe pas. C'est comme le temps. On n'est pas dans le temps, mais on n'a pas non plus de place. Il y a comme une place qui est accordée à une femme qui n'aura pas de voix, puisqu'elle sera seule, elle n'aura pas d'alliés, elle n'aura pas d'amis, mais ça lui sera donné, ou alors elle aura l'illusion d'avoir été élue, donc nous sommes des rivales. Et tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive quand ces filles en série, qui sont les unes à côté des autres, par exemple, se tournent et se regardent? Là, tout d'un coup, il y a une autre force qui émerge. De quoi sont-elles capables? Si au lieu de chercher le regard des hommes, ce que malheureusement on continue à faire, même sans s'en rendre compte, si au lieu de faire ça, on faisait systématiquement, on cherche le regard des femmes. Si la personne que je regarde en premier, c'est une femme, c'est pas un homme, c'est pas lui que je vais regarder. Si on entend vraiment la leçon d'Alison Bechdel, et quand on se parle, mais on ne se parle pas d'un homme. Hein, si c'est, on l'évacue. Quand Alice Coffin dit « je ne lis plus d'hommes, de textes d'hommes », elle a raison. Il y a un moment où il faut faire ce choix politique. Moi, je le fais. Ça fait des années que je lis très peu d'hommes. J'en lis, bien sûr. Mais si j'ai le choix, je choisis toujours des textes de femmes. Toujours. C'est un geste politique. C'est la même chose pour le cinéma, pour les téléséries. C'est ça qui... Je vais aller dans ce sens-là. Je vais toujours choisir ma fille. Parce que c'est cette fille, c'est cette personne qui a besoin de moi en ce moment. Elle va toujours gagner sur autre chose. Une autre personne, en particulier sur un homme, c'est sûr.
Et c'est très beau parce que, donc, comme vous revenez sur votre fille, en fait, on commence avec Le Monde est à toi à lire en fait, l'image de la Luciole que l'on redécouvre dans la conclusion de Serial Girls comme étant vraiment l'indice révolutionnaire un peu. Hein. La Luciole, dans l'image que ça peut représenter, est attribuée à la femme comme étant cette image vraiment très très forte et que vous allez aussi développer ensuite dans Pompière et Pyromane, d'amener comme ça, parce que bah, voilà, les féminismes, les pensées féministes, sont des pensées qui peuvent être difficiles, qui, à force de lecture en lecture, on se rend compte de tout le travail à faire, de tout ce qu'on nous a transmis aussi de mauvais, en fait, de choses, tout le travail qu'on a à faire, en fait, pour vraiment sortir de ces fameux prototypes, etc. Mais d'aller chercher comme ça cette image de la nature, de très poétique, de la luciole qui malheureusement disparaît. En fait, aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. C'est une image qui... Enfin voilà, la luciole, c'est un élément très important dans votre vie en général, où il s'avère que dans votre pensée, elle est arrivée comme ça subitement, ou c'est quelque chose qui est... Vous aviez déjà auparavant?
Ben, elle est arrivée via Georges Didier Huberman, donc un de ces hommes que je lis, et qui lui lit Pasolini. En fait, ce sont les lucioles de Pasolini qui m'intéressent. C'est les lucioles dont il pleurait la disparition, comme une métaphore de la disparition des militants. Mais il comparait les militants à ces jeunes garçons qui, dans le bois du Pincio à Rome, se clignotaient, se faisaient des signes pour se retrouver dans la nuit. Et plaignait l'impossibilité de ces rencontres parce qu'il y avait trop de lumière maintenant dans ce parc, donc c'était interdit, c'était impossible, et ça empêchait ces rencontres amoureuses. Ben voilà, c'est ça les lucioles. C'est le clignotement des militantes, mais c'est le clignotement aussi de l'amour entre femmes, quel qu'il soit, hein, vraiment de tous les types, qu'ils soient de l'ordre, enfin, qu'ils soient amical, militant, politique, amoureux, sexuel, peu importe, mais ce clignotement des femmes les unes par rapport aux autres. Ça, c'est Pasolini, beaucoup plus que Didier Huberman, en fait.
Mais c'est super beau. En fait, on peut imaginer qu'on est un petit peu des petites lucioles toutes comme ça.
Ouais, j'aime bien nous penser comme ça, comme des... Ouais, comme on clignote. J'aimerais bien qu'on puisse clignoter comme ça, se faire des signes, se reconnaître quand on est dans une salle, dire « je t'ai vu, je sais que t'es là ».
Mais il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression... En tout cas, bon, j'ai la chance d'être dans des environnements engagés, donc... voilà, j'ose espérer qu'on est dans cette présence-là de l'attention à l'autre. Enfin, je sais que dans une pièce, si quelque chose se passe mal, enfin, moi j'ai déjà vu ici des clients hommes désagréables. Ouais. Ouais. On me laisse pas toute seule, en fait,
non,
face à ça. Il y a un regard tout de suite,
ouais.
Et je sais que je n'aurai qu'un mot à dire pour que quelqu'un intervienne,
exact.
En fait.
Ouais.
Et tout comme j'essaye moi-même d'être cette présence-là pour
ouais.
les autres femmes,
ouais.
dans un train, dans un métro,
ou
de
ouais.
Et ça, je trouve que, enfin, c'est un endroit qui est hyper valorisant dans ses engagements quand on se rend compte qu'on s'est vu. Ce
ouais,
moment-là, il
fait.
Est hyper éclairant, en fait.
Ouais.
C'est de se dire, OK, on s'est checké,
oui.
on s'est vu,
oui.
on est là, il
ouais.
n'y a pas de souci, quoi.
Ouais, en anglais, on dirait « I have your back ».
Oui, voilà.
Hein, c'est ça, « I
ouais.
have your back ». Mais je pense que c'est plus présent chez des jeunes personnes que ça l'était jusqu'à maintenant. Je le vois dans la collectivité dans laquelle traîne ma fille, avec ses amis, quel qu'il soit, qu'elle soit. Ils sont comme ça. Ils ont créé ces liens-là. Mais est-ce que dans ma génération, il y avait ça? Je suis pas sûre. Je pense que la rivalité entre femmes était beaucoup trop forte. Et qu'encore aujourd'hui, mes collègues, mes amis, pas mes amis proches-proches, là, mais des collègues plus ou moins éloignés, avec qui je mange parfois, avec qui on travaille, est-ce qu'il y a cette confiance, est-ce qu'il y a cette assurance que l'autre has my back? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit gagné. Mm. Mais ça l'est dans la génération de ma fille. Je pense qu'ils ont compris. Ils ont vraiment compris. Et c'est là l'espoir, hein. C'est pour ça que Pompière et Pyromane est arrivé, parce que je les ai regardés, je les ai observés. Je me suis dit, il y a tellement de choses à apprendre qui viennent d'eux, pas nous. C'est pas nous, on a tout à apprendre d'eux, vraiment.
Oui, mais totalement. Et c'est là où c'est hyper encourageant aussi. C'est de se dire que, bah, sur plusieurs générations, on voit de l'évolution.
Ouais.
Et ça a été une réflexion aussi que j'ai eue, parce que j'ai eu la chance de recevoir Fatima Wasak pour son livre sur la puissance des mères, et donc qui est une mère en lutte, en fait, qui a créé le front de mère à Bagnolet, notamment, et qui a, en fait, cet endroit-là, en fait, de penser... Enfin, ça a vraiment été cette rencontre-là, ce moment où je me suis dit, mais en fait, tu as beau ne pas être en lien avec la maternité, faut pas oublier que c'est les générations suivantes qui vont faire la société, en fait.
Ouais.
Et donc,
ouais.
on a besoin des mères, on a besoin de la société pour construire ces générations et les laisser se construire toutes seules aussi, toujours.
Ouais.
Mais en tout cas, pour leur transmettre un maximum de bonnes choses en écho à toutes les mauvaises que nous, en fait, on a pu nous transmettre. Voilà, ou qu'on leur a laissées, notamment.
Ouais.
Et ça, cette rencontre avec Fatima, ça a vraiment été ça, de revaloriser, en fait, ce principe de l'enfant... comme le futur être de demain, en fait.
Ben oui, tout à fait.
Et c'était hyper beau. Et alors, je pense que c'est dans Le Monde est à toi où il y a cet endroit-là. Non, c'est dans Pompière et Pyromane. Où il y a cet endroit-là où vous citez, en fait, nombreuses associations voilà, qui sont sur le principe de la mère révolutionnaire, en fait, de l'amour des mères révolutionnaires. Ouais. Et c'est un travail hyper intéressant et qui revalorise la place des mères et notamment des mères populaires dans la lutte féministe, mais qui revalorise aussi les enfants comme des individus.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, et non pas, en effet, encore une fois, des êtres à former à l'image des adultes ou des volontés d'adultes, en fait.
En fait, ce qui m'intéresse dans ces organisations-là, c'est comment... Et d'ailleurs, il y a Mères au front au Québec. C'est une organisation de mères qui se sont mises ensemble pour lutter contre les changements climatiques ou au nom de leurs enfants. Et il y a un truc qui me dérange vraiment, donc, tellement que j'en fais pas partie. Quand elles s'affichent en tant que membres de cette organisation, elles nomment leurs enfants et quel âge ils ont. Et il y a quelque chose d'une essentialisation du maternel qui, là, pour le coup, ne me convient pas. C'est-à-dire que pour moi, la mère, c'est une posture politique aussi. On n'a pas à avoir des enfants, ni à les porter, ni à les avoir adoptés. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de notre âge, mais c'est une figure politique. Et quand ça devient essentialisé, quand on tombe dans l'utérus, là j'ai comme un peu un problème avec ça. Et donc quand j'aligne ces noms d'associations qu'on trouve partout, d'ailleurs beaucoup en Afrique, hein, les Africaines sont beaucoup, beaucoup mobilisées contre des changements climatiques, je le fais délibérément, c'est-à-dire que je veux montrer que ces mères au front, ou mothers for water, ou bon, il y en a plein, ce sont des gestes politiques et dans ces regroupements, il n'y a pas non plus que des mères, il n'y a pas non plus que des femmes, il y a vraiment tous ces humains qui prennent position politique au nom ou pour le bien de la génération qui est déjà là ou qui s'en vient, mais qui va rester et à qui on lègue une planète qui est en train de nous expulser. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est vraiment, et c'est ça qui est périlleux, hein, quand on prend, si j'écris depuis cette posture qui est la mienne en tant que mère, mais qu'en même temps je veux désessentialiser, c'est un peu compliqué. Mais j'ai la même chose en tant que féministe, c'est-à-dire quand les gens me disent, ça m'est arrivé, je ne sais plus dans quel contexte, je trouve ça débile, mais quand on me dit « t'es pas fière d'être une femme », je suis comme « je sais pas ce que c'est être une femme ». Sérieusement, cette identité-là, ça me convient, ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est vraiment pas... Et on me dit, oui, mais t'as eu un enfant, t'as porté un enfant. Ben, oui, bon, parce que j'ai ce corps, puis j'ai fait ce que je voulais avec ce corps, ou en tout cas, ce corps m'a permis de faire ça. Il aurait pu ne pas me permettre de le faire. C'est tout. Enfin, c'est comme aller faire du jogging. Je veux dire, j'ai fait un truc avec mon corps, mais ça n'a pas fait de moi une femme. Je ne me suis pas sentie femme parce que j'avais porté un enfant. Je ne me suis pas sentie femme parce que je l'ai allaitée. Il y a comme un truc qui... Et les gens ne comprennent pas ça, puis je ne suis pas sûre que je puisse l'expliquer vraiment, mais pour moi, la féministe, c'est une posture politique. Être femme, c'est une identité qui ne m'intéresse pas, vraiment. Quand on me parle d'énergie féminine ou de la qualité du féminin, ça nous remet en contact avec notre féminité, je suis comme, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce qui m'intéresse, c'est le formatage du féminin. Ça, c'est une chose. Mais je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas.
Et troisième étape, pompière et pyromane. Dans ce livre-là, vous êtes plutôt vers la pensée écoféministe, si je peux me permettre. Ouais. Et en même temps, en effet, du coup, de ce que vous venez de dire, on va le temporiser, ce terme, dans ce sens où on a... Après, l'écoféminisme, pour moi, ce sont des écoféminismes, parce qu'on a vraiment des pensées très larges et qui ne vont pas être d'accord les uns avec les autres. Absolument. Et il y a notamment tout ce mouvement plus essentialiste qui viendrait plutôt de la sorcière et de ce lien à la terre et de la puissance des femmes et voilà ce que...
De retour un peu aux années 70 et à la terre-mère et...
Exactement. Et d'un autre côté, il y a un écoféminisme. Non mais voilà, il existe. Il est porté par pas mal de...
Je suis quand même assez fatiguée, j'ai quand même un certain degré de transparence. Là.
Aucun problème, on adore, il n'y a pas de souci. Et de fait, après, il y a un autre plus gros, enfin, pas plus gros, mais en tout cas un autre gros mouvement qui considère simplement, en fait, l'écoféminisme comme étant le même combat que le capitalisme objectifie et s'octroie, en fait, j'ai mis des lettres en plus, le corps des femmes autant qu'il s'approprie, voilà, la terre, en fait. Donc vous seriez plus on l'entend de l'autre côté, on va dire. Et donc, pompière et pyromane, ça va plutôt être à cet endroit-là de pensée, puisque c'est une lettre en état d'urgence. Donc, de mettre un peu les points sur les i, sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui ne se passe pas bien, en fait, avec la planète Terre. Mm-hmm. Donc, ces engagements... alors, je ne voudrais pas dire écoféministe, mais en même temps, je n'ai pas d'autres mots, en fait, et de termes.
C'est pas un mot que j'utilise.
Non, non, c'est moi de ma lecture.
Non.
Mais parce qu'en fait, vous... c'est de ma lecture, mais évidemment, puis après, auprès de la maison d'édition, etc., c'est une façon, en fait, ouais, dont on présente ce livre, que vous articulez autour d'un élément tellement précieux pour les féministes, qui est donc le feu. Et donc, tout votre déroulé, toutes vos prises de parole tournent autour de cette thématique du feu. Mm-hmm. Donc, que ce soit de l'amour, de la... protection de la planète ou de l'urgence climatique, mais aussi des incendies, qu'ils soient criminels ou naturels. Ce titre, pompière pyromane, est absolument magnifique. L'image qui en découle, en fait, est assez dingue. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer comment il est venu? J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui vous a parlé, en fait. J'ai un souvenir du livre où on vous l'aurait transmis.
C'est mon Emmanuel Todd à moi. Ouais, non, c'est, je me souviens plus du tout qui il était, d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connaissais pas, mais c'est dans le fil de discussion sur Facebook où une autre personne renvoyait un texte que j'avais écrit, je sais plus. Et ce garçon a répliqué, ah, mais Martine Delvaux, elle me fait l'impression d'une pompière pyromane. Je dis, ah, pompière pyromane. Et je suis tombée là-dessus par hasard. Et je me suis dit, ah, mais ça m'intéresse, ça, une pompière pyromane. Qu'est-ce que ça fait, une pompière pyromane? Et c'est après, en creusant un peu même la notion de pompier pyromane, parce que je n'étais pas trop à l'affût de l'utilisation de cette expression, dont on sert pour décrire les politiciens, par exemple, qui vont foutre le bordel pour ensuite régler le problème et dire bravo moi. Mais il y a aussi des vrais pompiers pyromanes qui sont, je pense à un cas en particulier qui m'a beaucoup intéressé, un jeune homme. Bon, ils sont d'abord blancs, ils sont dans la trentaine à peu près. Et ils vont être bénévoles dans une caserne de pompiers ou bien officiellement pompiers. Et ils vont semer des feux, reviennent à la caserne, reçoivent l'appel et se précipitent pour être les premiers face au feu et participer à l'éteindre donc en premier et devenir un héros. Donc c'est un peu ce truc de chevalier blanc, de Robin des Bois. Donc ce sont des sauveteurs. Et il y avait ce cas d'un homme en Australie qui a été jugé criminel en tant que pompier pyromane. Et en fait, il s'est rendu compte par le biais d'une longue thérapie. En fait, il avait été victime d'agressions sexuelles quand il était adolescent. Donc, il était avec deux amis, son meilleur ami. Le meilleur ami l'a violé pendant que l'autre le tenait. Et ce traumatisme, il l'avait jamais raconté à personne. Et il s'est rendu compte en thérapie que ce traumatisme avait laissé de telles blessures qu'il était devenu pompier pyromane. Et donc, en lisant ça, évidemment, ça ouvrait tout un pan de réflexion. Et ça me permettait de réfléchir à cette idée de la pompière pyromane. En fait, c'est comme si tout d'un coup, ce pompier pyromane-là était proche de nous. Je le trouvais proche de nous. Il m'a permis de faire des sortes de passerelles avec les pompières pyromanes que moi j'imagine, qui sont à la fois celles qui pointent le trouble et qui sèment, qui partent le feu, qui allument le feu. Oui, je veux bien, en pointant, ça ne va pas. Et qui après vont militer, proposer des solutions, mettre la main à la pâte pour essayer de régler un certain nombre de choses. Mais l'accusation d'Emmanuel Todd à Titu Lecoq, par exemple, en parlant des féministes et en disant « vous êtes des pompiers pyromanes », ben il a tort. Nous ne sommes pas des pompières pyromanes. Enfin, pompiers pyromanes, nous sommes des pompières pyromanes. Et les pompières pyromanes sont peut-être les sorcières d'aujourd'hui. Enfin, peut-être que c'est un peu ça que j'essaye de voir, parce que je retourne aussi dans mes lectures, j'ai lu sur les sorcières, j'ai lu sur ce qu'on fait. Et puis bon, j'ai lu Silvia Federici. Hein, c'est vraiment ce que Federici dit des sorcières en lien avec le capitalisme qui m'a énormément intéressée. Mais j'allais relire Jeanne d'Arc, je l'ai repris au Front National. J'ai dit non, je la garde. J'ai lu Jeanne d'Arc dans Le regard de Vita Sackville-West qui la décrit comme une proto-queer, en fait. Hein. J'aime ça. J'ai voulu revoir et elle qu'on a mise sur le bûcher avec comme tant d'autres saintes qu'on a tuées de cette façon. Il faut se souvenir que les femmes en Angleterre, pendant longtemps, on les brûlait quand elles étaient jugées criminelles, alors que les hommes, on les pendait. Alors pourquoi détruire les femmes par le feu? Quel est ce... Pourquoi est-ce qu'on jette de l'acide sur les femmes pour les défigurer alors quand on veut les posséder? Je me suis intéressée à tous ces éléments-là pour essayer de penser quel est le rapport des femmes avec le feu, puisque dans mon imaginaire à moi, dans celui qu'on m'a inculqué avec toutes les études que j'ai faites, Le feu appartient aux hommes. Le feu est une affaire d'hommes, pas seulement parce qu'il y a des pompiers, mais parce que Prométhée porte le feu, parce que il y a cette métaphore que je cite, que je prends dans la route de Cormac McCarthy, hein, de The Road, où il y a toute une question de feu. Est-ce que vous portez le feu? Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous allez continuer sans manger des humains? Enfin, sans être cannibale? Est-ce que vous portez le feu? Est-ce que vous allez vous marcher vers l'avenir? Enfin, c'est une histoire de mec. Enfin, c'est un père et son fils. Mais si on est des femmes, est-ce qu'on peut le porter le feu, nous? Et moi, j'ai envie de dire, oui, on porte le feu. On se lègue le feu.
Et c'est là où, donc, pompière et pyromane, vous êtes vraiment sur encore ce principe de l'être, donc quelque chose de très accessible, mm-hmm. même si, bon, il n'y a pas le cher, mais c'est plutôt dans l'adresse. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais vous avez un travail absolument incroyable de citation, d'intégrer, en fait, dans vos paroles d'autres grandes paroles, d'autres grands extraits de livres, de penseuses et de penseurs. Mm-hmm. Ce ne sont pas uniquement des femmes ou personnes non binaires. Et tout ce fonctionnement, en fait, d'aller de l'un à l'autre, d'une histoire plus personnelle à un fait divers, même si ce terme est toujours un peu bizarre, mais en tout cas de quelque chose que vous auriez lu dans les journaux, ou quelque chose de l'ordre de l'histoire, ou quelque chose. Et en fait, ce qui provoque quelque chose d'hyper réjouissant, où on sent en fait le feu brûler en soi en tant que lectrice, il y a quelque chose de se dire oh là là, là, là le feu est partout. Donc évidemment, vous parlez de Céline Sciamma et la jeune fille en feu, ce qui ne peut que venir couvrir de bonheur mon cœur de fan absolu. Mais vous avez en fait cet endroit-là de parler en fait de la jeune fille en feu et des femmes en flammes. Mm-hmm. Alors, je ne sais plus si je l'ai lu dans un des livres. En fait, comme il y a beaucoup de livres, je ne sais plus où je tire l'inspiration, mais en tout cas, vous l'avez dit. Et ce principe-là, en fait, d'imaginer les personnages de Céline Sciamma comme... alors, qui ne sont pas, évidemment, les uniques jeunes filles en feu, hein, on s'entend. Hein. Mais moi, j'aime bien cette idée-là, en fait, que tout parte de l'amour, en fait, le feu amoureux, pour ensuite, en fait, être ces fameuses pompières pyromanes qui viennent révolutionner le monde. Mm-hmm. La flamme, le feu, c'est quand même un élément pour les féministes de plus en plus important. Il est sur le nombre de titres... sur le feu, le nombre, enfin, de, je sais pas, quand on veut dire que c'est génial et que ça va tout bouleverser, on dit que c'est le feu, que, etc.
Des chansons.
Mais oui, c'est ça. J'aurais envie de demander pourquoi. Et en même temps, on le ressent tellement, en fait, ce feu. Comment les féministes ont réussi, finalement, à s'approprier ça? Est-ce que je me trompe quand je me dis, elles se le sont appropriées? Alors même, comme vous le disiez, c'est une affaire d'hommes. Le feu.
Oui, oui, tout à fait. Mais là, il y a une conjoncture. Hein. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu le nombre de titres où le feu est convoqué, le nombre de chansons populaires. C'est Juliette Armanet, mm-hmm. je pense qu'il y a une chanson comme celle-là. Moi, je cite Clara Luciani. Je pense qu'on se... Oui, on est, en tout cas, on est en train de se l'approprier, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on peut dire écoféminisme, mais les féministes sont touchées par la crise climatique, je crois particulièrement. S'il y a une figure, une image qui résume les changements climatiques, c'est celle du feu. Ce sont les grands incendies qui ont couvert presque en fait, des hectares de terre en Californie, en Australie, en Sibérie, au Canada. Enfin, quand on parle de réchauffement climatique, on parle de ce feu qui est partout, même quand il s'agit de froid. Enfin, au Québec, là, c'est un hiver infini et très, très froid. C'est quand même le feu. C'est quand même ce feu qui est en train de brûler notre présence sur cette planète. Enfin, c'est comme si la planète nous disait, mettez le feu pour nous dire, bon, ben, vous partez maintenant parce que bon, ça suffit maintenant, vous avez fait suffisamment de mal, allez voir ailleurs.
L'idée des grands feux, encore une fois, c'est un sujet qui est bigou, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que la nature le crée, enfin, les méga-feux, les grands feux, c'est pas forcément quelque chose créé par les humains. Hein. Ouais. C'est vraiment parfois la planète, la nature a besoin, en fait, de se rééquilibrer, de purifier.
Ils peuvent nous montrer comment faire avec les grands feux. Et s'il y a des gens qu'on n'écoute pas, ce sont les autochtones, les communautés autochtones. Absolument. Si on écoutait les communautés autochtones, on comprendrait comment on fait avec le feu. Le feu n'est pas, c'est pas l'ennemi. En fait, les Blancs voient le feu comme l'ennemi, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le feu fait partie de l'écologie, fait partie de la santé de cette planète. Mm. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas les experts. Les experts, ce sont les communautés autochtones qui apprennent. On se transmet de génération en génération comment faire les feux, comment traiter le feu, comment le nourrir, comment l'éteindre. On est, au Québec, on dirait, on est dans le champ. On a tout faux. On a tout faux. Et on le sait qu'on a tout faux. Et on continue, on fonce dans le mur. Allez, allons-y.
Et c'est ça, et encore une fois, c'est d'un point de vue des générations. Vous citez beaucoup, notamment Greta Thunberg, ouais. Qui est une voix qui représente en fait vraiment cette jeunesse qui en a marre que les adultes, ceux ouais. qui sont censés savoir, n'écoutent pas, ne se renseignent pas, ne cherchent pas en fait à changer les choses. Pourquoi c'était important pour vous ? Parce que sans même parler de Greta Thunberg, je pense que votre livre aurait été autant fabuleux.
Oui, oui, pas fabuleux, je sais pas, mais ça aurait pu exister.
Voilà,
oui, oui.
D'aller en fait, de parler en fait de cette jeune femme. Est-ce que c'était aussi une façon en fait d'encourager les générations autour de votre fille, enfin de continuer à faire le lien intergénérationnel, ouais. de dire il faut qu'on les écoute plus, il faut qu'on soit plus dans cette réaction-là, en fait, parce que quand Greta Thunberg parle face à des hommes quand même qui sont hyper impressionnants, enfin je sais pas si on aurait toutes, même avec toute la rage et le feu qu'on a en
oui,
soi,
oui, oui.
Le toupet, force, l'audace, ouais. La force, enfin d'être ancrée et de pouvoir leur dire tout ce qu'elle leur dit, il y a ouais. quelque chose de grand courage en fait à cet endroit-là.
Oui, absolument, et puis elle est pas la seule, il y a non,
oui,
pas de
ça.
Filles partout sur la planète et qui ne sont pas blanches comme elle, parce qu'il faut quand même, hein, j'en suis bien consciente quand j'écris sur elle, c'est cette jeune femme blanche qui retient l'attention et au détriment de plein d'autres militantes qu'on tend à ignorer parce que justement elles ne correspondent pas à ça. Je me suis intéressée à elle parce que je voulais en fait m'intéresser. Bon, d'une part, ce qui a retenu mon attention, c'est peut-être moins Thunberg comme telle que l'impact de son militantisme sur sa famille. En fait, ce qui m'intéressait au départ, c'était le rapport mère-fille en lien avec le militantisme et quand Greta Thunberg a cessé de manger, par exemple, quand elle s'est vraiment... elle s'est donnée à cette cause, c'est l'impact que ça a eu sur ses parents et sur sa sœur, comment tout le monde s'est mis au service de sa cause. C'est ça qui m'intéressait. Et après, comment les hommes écrivent sur elle. bon, les hommes n'ont pas écrit sur d'autres militantes, donc je me suis intéressée à cette lettre de Laurent de Sutter qui, tout en donnant l'impression qu'il ne va pas écrire sur Greta Thunberg, dit « mais je vais quand même t'écrire ». Et il lui écrit une lettre. Il est ultra paternaliste, en fait. Il occupe cette place alors que c'est elle qui est au front. Enfin, bon, ça m'a fait un peu hurler. À contrario, ben, il y a Bernard Stiegler qui s'est enlevé la vie peu de temps après avoir écrit ces deux immenses livres sur Greta Thunberg, mais où il propose le concept du penser. Donc, penser P-E-N-S-E-E, mais penser P-A-N-S-E-R. Donc, comment la pensée peut être un pansement? Comment on peut soigner en pensant. Et c'est Greta Thunberg qui l'amène à réfléchir à ce principe-là. Bon, je suis très... Donc, il faut comprendre que j'ai écrit ce livre un peu de manière intuitive, en passant d'un sujet à un autre, en comment on collectionne des coquillages sur la plage ou comment on ramasse des cailloux. Et après, je les ai montés, je les ai collés. Si je me suis intéressée à Bernard Stiegler, c'est parce que je me suis intéressée au suicide, à l'immolation, que j'étais moi-même assez hantée par l'idée du suicide, que je me suis demandé, comme Roy Scranton, est-ce que pour que cette planète survive, il faudrait qu'on s'enlève la vie, hein, et Scranton qui dit, ben, même si on le faisait, ça changerait rien. Donc, je pense qu'on est tous un peu pris par ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment je fais, moi, comme individu, sur cette planète, pour ne pas continuer à rendre la vie impossible ici? Et c'est tout ça qui m'habitait. Et le feu est devenu une sorte de fil rouge, pour me permettre d'aligner des idées, de tester des idées. Et si je m'adresse à Ellie, ben, c'est parce que je voulais avoir une adresse. Donc, c'est elle et c'est pas elle. C'est elle, puis à travers elle, c'est tout le monde. Hein, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi tout le monde, les adultes, les politiciens qui liront pas, mais bon, quand même. Ils sont quelque part là-dedans. Là.
Tout le monde doit... Tout le monde doit s'emparer du feu. Merci beaucoup, Martine, pour cette
Merci
super discussion. Alors... Heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Martine Delvaux à l'occasion de la parution de ses ouvrages Pompière et Pyromane et Le Monde est à toi aux éditions Les Avrils. L'Affranchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.